Les microbes jouent un rôle essentiel dans le vivant, les scientifiques le savent parfaitement aujourd'hui, et les microbes ne sont pas que de dangereux ennemis pathogènes, ils sont aussi souvent capables de remplir des fonctions vitales pour l'organisme. Le microbiologiste Marc-André Sellos revient dans La Tête au Carré cet après-midi pour la suite de son récit publié chez Actes Sud, son titre « Jamais seuls, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations ». Et avec lui, nous allons donc cette fois explorer la façon dont les plantes et les hommes se construisent intimement avec les microbes. Vous nous rejoignez bien sûr avec vos messages, toutes vos questions, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Et bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, une découverte importante sur la plasticité cérébrale.
Oui Mathieu, des chercheurs bordelais décryptent une partie des mécanismes en jeu dans la plasticité et vous allez le voir, ça bouge dans le cerveau. Explication dans un instant avec le neurobiologiste Daniel Choquet.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupin qui reviendra aujourd'hui avec le troisième épisode de sa saga sur le lévothyrox. Fanny Boyon réalise l'émission, préparée par Chantal Le Montagnier avec Thomas Lehété.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations. Bonjour Marc-André Sellos.
Bonjour.
Bienvenue à vous, on s'était rencontrés en juin pour présenter votre ouvrage. Est-ce que le corps humain possède des zones particulièrement accueillantes pour les microbes?
Oui, il en possède plusieurs. En particulier toutes les cavités ou tous les plis de la peau et les cavités comme la cavité nasale, le creux des oreilles et bien sûr le tube digestif, on parle beaucoup du microbiote intestinal, mais c'est loin d'être le seul. Et puis aussi toute une colonisation de la peau, y compris les surfaces exposées de la peau.
C'est pareil pour les plantes ou pas? Cavités, les plis sont des bons coins.
Il y a une petite différence. C'est que les cellules de plantes vivent encapsulées dans une petite paroi protectrice, qu'on appelle la paroi. Mmh. Et entre les parois des plantes, il y a souvent des interstices. Ce qui fait que la plante, elle est colonisée de partout, jusqu'entre ses cellules. Nous, c'est juste la surface et les creux.
Et on y revient avec vous dans quelques minutes. Dossier en compagnie des auditeurs et de leurs questions sur le site de La Tête au Carré. Et la danse endiablée des récepteurs à la surface de nos neurones, c'est une découverte importante sur la plasticité cérébrale et la mémoire qui est aujourd'hui à la une de la science.
Mesdames, messieurs, veuillez prêter attention à mon collègue, l'agent J. Il va vous présenter un dispositif électro-biomécanique de repositionnement à neurotransmission asynaptique baptisé neurolaser.
Qu'est-ce que c'est que ces conneries?
Excellente question. Et vous y trouverez la réponse en regardant ici.
Et qui êtes-vous?
Un extrait de Men in Black pour parler de cette publication importante donc sur les mécanismes de mémorisation avec ces chercheurs bordelais qui montrent que la membrane de nos neurones se modifie en permanence et que cette forme de danse des récepteurs est indispensable pour bien mémoriser. Axel, vous nous présentez notre invité, Daniel Choquet.
Bonjour Daniel Choquet.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche pour le CNRS à la plateforme d'imagerie de Bordeaux. L'étude que vous publiez aujourd'hui dans la revue Nature, c'est la suite d'une découverte que vous avez faite il y a quelques années, cette fameuse danse des récepteurs. Expliquez-nous un peu ce qui se passe à la surface de nos neurones en permanence.
Eh bien, comme vous le savez, le fonctionnement du cerveau est dû à l'activité des neurones qui communiquent entre eux par l'intermédiaire de synapses, ces zones de connexion entre neurones. Et au niveau de ces synapses, on a des récepteurs qui sont responsables de la transmission de l'information entre cellules. Et on pensait autrefois que ces récepteurs étaient immobiles, que la transmission était d'une certaine manière très stable. Mmh. Et ce qu'on a découvert il y a quelques années, c'est qu'en fait, ces récepteurs sont en agitation permanente, se déplacent tout le temps à la surface des neurones. Et ces déplacements sont en fait extrêmement importants pour le fonctionnement du cerveau.
Mais alors, qu'est-ce qui leur donne ce mouvement? Pourquoi est-ce qu'ils bougent?
Alors en fait, c'est simplement la température, l'agitation moléculaire. C'est un mouvement qu'on appelle, c'est le mot savant, l'agitation brownienne, qui est l'agitation de toutes les molécules qui bougent partout. Et en particulier, les récepteurs de neurotransmetteurs bougent aussi, dû à l'agitation moléculaire.
Alors aujourd'hui, oui, dans une nouvelle publication, vous montrez que ce mouvement est utile, il est même indispensable. Comment est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous avez découvert à propos de ce mouvement?
Après avoir découvert que ces récepteurs bougeaient, on s'est bien entendu posé la question de savoir à quoi ça sert. Est-ce que c'est par hasard que les récepteurs bougent à la surface des neurones ou est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Et donc on a développé tout un ensemble de technologies qui permettent d'arrêter les récepteurs, de les immobiliser à la demande pour voir quel était le rôle de ce mouvement. Et ce qu'on a découvert, c'est que quand on arrête le mouvement des récepteurs, le cerveau continue à fonctionner normalement, mais il devient incapable d'apprendre. on a perdu la plasticité.
Alors, on parle de cerveau qui est incapable d'apprendre, on parle de cerveau de souris, bien sûr.
Bien sûr, on en est au stade des expérimentations chez l'animal et donc chez la souris. Et donc chez la souris, on est capable d'arrêter le mouvement de ses récepteurs et de tester les possibilités d'apprentissage de la souris, en particulier l'apprentissage spatial, la navigation dans l'environnement. Et la souris, dont les récepteurs sont immobilisés, n'apprend plus. Elle ne sait plus reconnaître tel endroit ou tel endroit. Elle ne sait plus se rappeler qu'elle a été se promener dans tel endroit ou dans tel endroit.
Et alors, qu'est-ce qui fait ce phénomène, justement, Daniel Choquet ? Puisque vous parlez d'agitation, puis ensuite de phénomènes qui s'arrêtent dans le cadre de la mémorisation. Comment ça fonctionne ? Comment sont réparties, justement, les choses ?
Eh bien, c'est là que c'est tout à fait intéressant. Ce qu'on sait par ailleurs, c'est que le phénomène de mémorisation est dû en grande partie à une augmentation du nombre de récepteurs dans les synapses. Quand on se rappelle d'un endroit en particulier, eh ben, certaines synapses de certaines régions du cerveau sont renforcées et il y a plus de récepteurs qui arrivent. Et en fait, en arrêtant la mobilité des récepteurs, ben, on empêche ces nouveaux récepteurs d'arriver. Et donc, les synapses ne peuvent plus augmenter leur force de transmission. On a, d'une certaine manière, gelé leur fonctionnement.
Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait voir la mémoire comme une forme de cartographie ou la position du récepteur et l'information mémorisée ?
Absolument. C'est au niveau des synapses. La mémoire, c'est certaines synapses qui vont être potentiées, certaines synapses qui, au contraire, vont perdre de la potentiation. Et ça va permettre ça de changer l'activité du réseau neuronal. Et effectivement, la position des récepteurs, qu'ils soient dans la synapse ou en dehors de la synapse, va totalement déterminer si une synapse est forte ou moins forte.
Mais la mémoire, alors expliquez-moi bien, ça fonctionne quand ça s'agite ou quand ça s'arrête, Daniel Choquet ?
Les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que pour stocker de l'information, il faut rajouter des récepteurs, il faut immobiliser des récepteurs dans une synapse, mais pour qu'ils y arrivent dans cette synapse, il faut qu'ils se soient déplacés. Et donc, si on empêche ce déplacement, eh ben, on empêche le recrutement et du coup, on empêche la mémorisation.
Alors, quand vous dites que les récepteurs se déplacent en permanence, est-ce qu'on peut parler d'une vitesse ? Quelle distance ils parcourent par rapport à leur taille ?
Donc, les récepteurs se déplacent, comme je l'ai dit, par cette agitation moléculaire. Une synapse, c'est à peu près un micron, donc c'est à peu près un vingtième de cheveux en taille. Et un récepteur, c'est à peu près 50 fois plus petit. Ça se mesure en milliardième de mètre, c'est une vingtaine de nanomètres. Donc un récepteur se déplace à peu près d'un micron en une seconde. Donc un récepteur peut traverser toute une synapse à peu près en une seconde.
Est-ce que le fait de pouvoir bloquer ou même stimuler ce mouvement peut avoir un intérêt médical particulier ?
Donc on le pense, donc ça c'est les recherches qu'on est en train de faire maintenant, puisqu'il y a quelque chose qui est très important, en particulier dans le cadre de certaines maladies neurodégénératives, comme maladie d'Alzheimer par exemple, ou maladie de Huntington, on a une perte de l'activité des synapses, dont on pense qu'elle est due en grande partie à une perte des récepteurs. Donc on pourrait imaginer qu'en développant des méthodes qui permettent de stabiliser des récepteurs ou de les déstabiliser, on puisse empêcher d'une certaine manière cette perte de synapse.
Est-ce que ce phénomène-là que vous décrivez et ces découvertes que vous avez réalisées, c'est ce qui décrit aussi un peu mieux la plasticité cérébrale ?
On le pense, absolument. Puisque en pouvant comme ça contrôler ce mouvement des récepteurs, on pense qu'on va pouvoir contrôler la mémorisation dans différentes zones cérébrales. Donc on a commencé par travailler dans une zone spécifique qui s'appelle l'hippocampe, qui est responsable de la mémoire spatiale. Mmh. Et ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est d'aller regarder dans d'autres zones du cerveau, le cervelet, le cortex, qui sont responsables d'autres formes d'apprentissage, pour voir si effectivement cette mobilité des récepteurs, là aussi, est nécessaire pour ces autres formes d'apprentissage.
Merci beaucoup Daniel Choquet, bravo à votre équipe de Bordeaux qui vous vaut donc une publication dans la revue Nature donc autour de ce mécanisme. Merci beaucoup à vous et Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une nouvelle piste très prometteuse pour traiter l'asthme allergique. Une nouvelle substance extraite de la baie de corail, plante de la famille des broméliacées, vient d'être testée en inhalation sur des modèles animaux d'asthme allergique et s'avère bien plus efficace que le salbutamol, seule molécule disponible pour l'instant, utilisée dans tous les inhalateurs d'urgence comme la ventoline. L'efficacité est immédiate, comme pour le salbutamol, mais par contre, elle dure bien plus longtemps et inhibe la contraction réflexe des bronches en cas de contact avec un allergène. Cette molécule ne sera pas testée sur l'homme avant plusieurs années, compte tenu de sa parfaite nouveauté, c'est ce que précisent en tout cas les chercheurs. Les plaques tectoniques seraient moins solides qu'on ne le pensait, selon une étude publiée dans Nature. C'est la technique de nano-indentation qui permet aujourd'hui d'expliquer cette différence. Elle consiste à compresser un diamant contre une roche pour déterminer la force de cette dernière. Or, cette étude montre que le résultat varie en fonction de la taille du diamant utilisé. Plus il est petit, plus la roche sera forte. Et jusque-là, on se servait de diamants plus petits que ceux que l'on trouve dans la nature. C'est pour cette raison qu'on aurait surestimé la force des plaques tectoniques. Dorénavant, on devrait mieux comprendre et prévoir la dynamique de ces plaques. Et puis enfin, Octopolis et Octatlantis, ce sont les noms des deux premières villes de pieuvres observées en pleine mer, des cités faites de vieux coquillages et de roches accueillantes. Jusque-là, on pensait que ces animaux étaient des solitaires. Mais en 2012, des chercheurs australiens observent 16 pieuvres qui se partageaient un même espace sur de longues durées. Ensemble, elles se battaient, s'accouplaient, bref, elles socialisaient. Un autre rassemblement a été étudié plus récemment, 23 individus observés pendant 28 jours, qui présentaient le même type de comportement. Les auteurs de l'étude avancent l'idée selon laquelle la réduction des espaces pouvant accueillir ces créatures aurait pu les conduire à adopter ces comportements sociaux inédits. Et dans un instant, le peuple des microbes avec mon invité Marc-André Sellos.
Tête au carré. sur France Inter.
Voilà donc une malheureuse population entièrement abandonnée à elle-même au point de vue hygiénique et prophylactique. Je parie qu'ils boivent de l'eau sans penser aux milliards de bactéries qu'ils avalent à chaque gorgée. Savent-ils même ce que c'est qu'un microbe ?
Quelques-uns connaissent le mot, mais ils doivent se figurer qu'il s'agit d'une espèce de mouche.
C'est effrayant. Écoutez, cher monsieur Bernard, il faut faire quelque chose.
Mais je ne m'y refuse pas.
Tenez, pour débuter, une petite conférence sur la fièvre typhoïde, les formes insoupçonnées qu'elle prend, ses véhicules innombrables, eau, pain, lait, coquillages, légumes, salades, poussière, haleine, le tout agrémenté de jolies vues. Bacilles formidablement grossies, détails d'excréments typhiques, des trillions de bacilles de la dernière virulence, capables d'infecter un département.
Et le monde des microbes vu par le docteur Knock en 1951 pour introduire notre dossier avec vous, Marc-André Sellos. Vous êtes microbiologiste, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, également à l'Université de Gdansk en Pologne, et à Viçosa au Brésil, président de la Société Botanique de France. Comment vous faites tout ça d'ailleurs ?
C'est pas aux mêmes heures.
Heureusement. Et vous partagez comme ça entre vos différentes fonctions.
Oui, oui. Et puis c'est très bien parce qu'on peut se cacher.
Ouais. De quoi?
Des fois,
microbes?
Des ennuis à un endroit en allant dans l'autre.
Ouais. Vous avez le temps d'écrire aussi puisque vous publiez cet ouvrage Jamais seul. Hein. Ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations. C'est sorti avant l'été chez Actes Sud et on vous reçoit aujourd'hui pour la deuxième partie de l'émission. Après les microbes et les animaux, hein, lors de la première justement. Aujourd'hui, on va beaucoup plus parler des interactions entre les microbes et les plantes et puis également les microbes et les hommes. À partir de quand d'abord est-ce qu'on a découvert les pratiques de symbiose et de mutualisation dont on avait beaucoup parlé déjà lors de la première émission ?
Alors, c'est tard dans l'histoire des sciences, c'est à la fin du 19e, mais d'emblée, on découvre tout un tas d'interactions avec des microbes qui sont favorables. On reparlera peut-être des interactions entre les racines des plantes et les champignons du sol. On a aussi découvert les petites algues qui vivent dans les coraux dès 1870, mais ces interactions positives ne resteront connues ou n'intéresseront qu'une fraction de la communauté scientifique. Et ce qui s'est passé ces 20 dernières années, c'est qu'en fait, l'existence de microbes, au-delà de ceux qui créent les maladies ou les décompositions, l'existence de microbes qui ont des rôles positifs et qui interagissent à bénéfice réciproque avec les plantes ou avec les animaux, ça, ces 20 dernières années, ça a déferlé sur la communauté scientifique, ouais. Jusque dans le monde médical.
Mais c'est très récent alors, en fait, hein.
C'est la prise de conscience, c'est récente, et ça m'évoque cette idée que en science, il n'est pas simplement utile de dire des choses pertinentes, il y a aussi un contexte où elles sont entendues et où elles peuvent provoquer des recherches utiles. Et...
Qu'est-ce qui a favorisé ce contexte alors par rapport à la réception de ces informations autour des microbes alors ?
C'est difficile à analyser, mais je pense... deux choses. La première, c'est qu'on a des techniques maintenant moléculaires, de biologie moléculaire, qui permettent d'identifier les microbes qui sont à un endroit sur la base de leur ADN. Sur la base de l'ADN, on arrive à découvrir que non seulement sur un petit gratouillis de ma main, il y a une petite centaine d'espèces différentes présentes. Ben oui. Mm-hmm. Bon, faut dire qu'il y a 10 millions de bactéries par centimètre carré de peau de main, donc ça fait déjà du monde. Et on arrive à savoir quel groupe ils appartiennent. Et on découvre d'ailleurs au passage que plus de 80-90% de ces espèces-là, on les a jamais cultivées. On ne sait pas les cultiver, donc avant on les avait pas vus. Donc il y a des outils qui maintenant nous permettent de décrire les communautés de microbes. Et puis, je pense qu'il y a autre chose aussi. Avec Knock, on a vu à l'instant, la médecine a fait de gros progrès.
Alors c'est ça, oui.
Pour nous priver de microbes et donc des microbes délétères. Mais ce dont on se rend compte actuellement, c'est que au passage, on a aussi enlevé les bons microbes, ceux qui sont
utiles.
Ceux qui sont utiles à notre santé. Voire même vitaux. Et alors que s'effondraient les maladies justement propagées par des microbes, on voit s'envoler l'asthme, l'autisme, l'obésité, dont une partie du déterminisme, ce sont des maladies complexes, je ne voudrais pas être trop réducteur, dont une partie du déterminisme est microbien. Nous en sommes habituellement protégés par les microbes qui nous colonisent.
Absolument. Et c'est cette diversité aussi qui est absolument essentielle au fait que ces microbes soient aussi nombreux autour de nous.
Effectivement, c'est une. Pour l'instant, on fait pas très bien le tri de lesquels sont nécessaires à se protéger contre certaines maladies. Mais ce qui est certain, c'est que une exposition diversifiée à des microbes favorise la santé.
Ah oui, ça c'est vraiment un avantage.
Oui, et alors on a par exemple des paires de jumeaux, donc des individus identiques génétiquement, qui vivent soit en milieu rural et qui sont donc beaucoup plus contaminés, soit hors de milieu rural, ou bien qui ont un chien, ou qui n'ont pas de chien.
Et le terme de contamination, il n'est pas péjoratif. Hein.
Ah non, c'est juste l'accès l'accès des microbes à notre organisme, leur accès à notre peau ou à notre tube digestif.
Et
bien, quand on compare ces individus, on voit très bien qu'on a moins d'asthme, de moindre risque de problèmes allergiques, moins de maladies auto-immunes également. On a donc, pour ceux qui sont le plus exposés, un ensemble de microbes divers.
Donc il nous faut des microbes, hein, et essayer de les préserver cette diversité, c'est ça ce que vous nous dites au fond ?
Dans le livre, je parle de saleté propre.
Oui,
il y a un degré de saleté qui n'est pas sale, en fait, et qui est propre à nous défendre et à nous aider à vivre mieux.
Oui. Et il faudrait quoi alors pour accéder vraiment à une bonne saleté propre, Marc-André Sellos ? Il y a une recette ou pas ?
Elle n'est pas dans le livre. En fait, on ne sait pas encore exactement ce qu'il faut faire parce qu'on commence ses recherches. Mais déjà, les pratiques médicales ont évolué. On recommande plus maintenant de stériliser les tétines de biberon. On dit juste de les rincer à l'eau et au savon. Et voilà. C'est pareil, quand la tétine ou la sucette tombe par terre, bah le père lèche un coup pour enlever le pire ou la mère. Et puis, on redonne à l'enfant. Donc, l'idée, c'est de ne pas faire de l'enfant, parce que c'est la connaissance dans le jeune âge qui va permettre le bon développement du système immunitaire, du système nerveux. L'enfant ne doit plus être une citadelle inaccessible pour les microbes.
Et donc cette saleté propre, elle est très importante.
Elle est vitale, elle est une partie de nous-mêmes. Et si on trouve un petit peu écœurant d'imaginer qu'il y a des croûtes de bactéries sur notre peau, après tout, il y en a pratiquement 1000 milliards sur la peau d'un individu bien lavé. Si on trouve un petit peu dégoûtant d'évoquer ce qui peuple la salive ou la plaque dentaire ou le cérumen des oreilles, c'est juste des préjugés culturels qui nous font refuser quelque chose qui est une partie de nous-mêmes.
Chérissez vos croûtes, chérissez votre cérumen. C'est un peu le message que vous nous délivrez cet après-midi dans La Tête au Carré. D'ailleurs, on va écouter cette publicité sur laquelle vous allez pouvoir réagir.
Vous avez nettoyé avec un produit à la Javel. C'est propre et désinfecté. Mais pour combien de temps ? Car même un geste banal peut redéposer des bactéries. Désormais, pour toute une journée de protection, il y a le nouveau Monsieur antibactérien. Même en fin de journée, ces agents continuent d'éliminer les bactéries. Votre maison reste plus saine, plus longtemps. Nouveau Monsieur antibactérien, le temps passe, mais la protection reste.
Voilà, Monsieur Bip, il a tout faux en fait, hein.
J'ai peur que... Il a raison que tous les gestes sont contaminants. On vit dans nos maisons, on garnit nos maisons de notre identité microbienne. Mmh. Et ce qui est assez amusant, c'est quand on déménage, ça a été montré par des études, on déménage la communauté microbienne avec. C'est-à-dire que les locaux dans lesquels on rentre, on trouve rapidement se retrouver peuplés par des communautés microbiennes qui ressemblent à celles de l'endroit que l'on a quitté. Effectivement, il y a certaines surfaces qu'il faut nettoyer. C'est évident. Après, tout nettoyer tout le temps, c'est excessif.
Et cette publicité est un petit peu excessive en ce sens, non ?
Je ne sais pas où est-ce qu'on veut appliquer le produit. Je vais être prudent parce que je ne voudrais pas avoir d'ennui avec Monsieur Bip. Mais ce que je pense, c'est qu'il y a des surfaces, évidemment, aux toilettes en particulier, qu'il faut nettoyer. Bon. Mais il y a d'autres surfaces qu'il ne faut pas nettoyer aussi intensément. Je pense par exemple aux bactéricides qui sont présents dans certains savons. Le triclosan et le tricocarban ont été interdits aux États-Unis dans les produits à usage cutané parce que ce sont des produits appropriés bactéricides qui sont complètement inutiles. Et se laver, c'est bien. Trop se laver, c'est pas bien. Alors l'équilibre à trouver est difficile. Mais il y a aussi des gestes à acquérir quand on a eu des gestes contaminants. On se lave les mains, mais on se les lave pas en permanence. Et les gels, par exemple, qu'on utilise à tout bout de champ pour se nettoyer les mains après avoir serré la main du voisin, ces gels-là, c'est un exemple de nettoyage excessif.
Marc-André Sellos, vous êtes notre invité cet après-midi. On va parler des plantes dans un instant, qui vivent très bien aussi avec les microbes et qui font des choses très intéressantes ensemble. Et les messages des auditeurs pour vous sur franceinter.fr. Et c'est Monterosso.
Tête au carré, Mathieu Vidard.
Marc-André Sellos avec nous, jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations. Postface de Francis Allais, biologiste que nous connaissons bien, et chez Actes Sud, c'est donc votre éditeur pour la publication de ce livre. Parlons des plantes, parce que vous consacrez aussi de nombreuses pages à nous expliquer comment ça fonctionne, les synergies entre plantes et microbes. Clairement, les plantes ont besoin des microbes.
Ah oui, elles non plus ne sont jamais seules pour le coup. Elles aussi ont une population microbienne riche, diversifiée, qui comprend des bactéries, des champignons, beaucoup plus que dans le cas effectivement des animaux comme l'homme. Et les plantes également ont, au cours de leur évolution, en fait, très souvent acquis des propriétés par le biais ou en se reposant sur ces microbes. Donc elles aussi sont habitées et heureuses de l'être.
Ouais. Est-ce que dans l'histoire du vivant, ça a toujours été le cas? Il y a toujours eu ce compagnonnage entre le végétal et le microbe, les bactéries?
Indubitablement. Indubitablement, et pour la plante, deux choses toutes simples. D'abord, les plantes sont vertes, parce qu'elles contiennent de la chlorophylle, et cette chlorophylle est dans des petites particules de la cellule qu'on appelle les chloroplastes. Ces chloroplastes, ce sont les usines à photosynthèse, c'est-à-dire qu'avec la chlorophylle, la lumière solaire est exploitée, et ça permet de produire à partir du gaz carbonique des sucres. Ces plastes, ce qu'on a découvert dans les années 70, c'est que ce sont des bactéries qui vivent dans les cellules végétales depuis des décennies, depuis des centaines de millions d'années, et qui permettent en fait à la cellule de faire la photosynthèse. Donc ce sont des habitants microbiens qui ont un rôle
absolument essentiel, mais c'est essentiel.
C'est dans l'essence même de la plante que de faire la photosynthèse. Et donc en fait l'ancêtre des plantes, c'est, j'allais dire, un organisme comme vous et moi qui devait se nourrir de ces petites bactéries, qui a eu une indigestion en quelque sorte. Il les a pas digérées, il les a gardées. Elles se sont multipliées dans les cellules, elles ont été transmises à la descendance jusqu'à faire le monde vert que nous connaissons, où les plantes sont vertes parce qu'elles sont nourries par des plastes.
Est-ce que ces microbes, ils évoluent beaucoup au fil justement de ces millions d'années? Qu'est-ce qu'on observe?
Alors oui, bien sûr, ils évoluent. En l'occurrence, d'ailleurs, ces bactéries qui vivent au fond des cellules, comme les chloroplastes dont on parlait, évoluent en se simplifiant beaucoup. Il y a tout un tas de fonctions et donc tout un tas de gènes qui ne leur servent plus à rien puisqu'ils sont complètement emballés, protégés dans la cellule, nourris par elle. Donc il y a une certaine érosion génétique. Et alors ça, c'est-à-dire que leur génome devient tout petit. Mmh. Il devient tout petit et réduit aux fonctions qu'ils remplissent pour les plantes. Finalement, et leur petit jeu de gènes est une sorte de plugin qui se rajoute au programme génétique de la cellule pour rajouter, en fait, dans ce cas-là, la photosynthèse. Alors, évidemment, ils ont beaucoup évolué. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'ils sont devenus complètement dépendants de la cellule hôte. Et la cellule hôte, la plante, dépend aussi de ces bactéries pour la photosynthèse.
C'est vraiment dans les deux sens.
Donc il n'y a pas de complot microbien. Francis Allais m'avait repris sur une première version de mon bouquin où je parlais de la manipulation des plantes et des animaux par les microbes. Il avait dit, mais non, c'est pas une manipulation.
Et il a le profil est dans les deux sens.
Et c'est une interdépendance.
Oui, absolument. Alors, il y a beaucoup d'exemples que vous citez. D'abord, pourquoi vous parlez de cette graminée Kentucky 31? Racontez-nous cette histoire. En quoi elle est intéressante, justement?
Elle montre les formidables erreurs d'aménagement et notamment d'aménagement environnemental qu'on peut faire si on ne prend pas en compte les microbes. Dans les années 30, les chercheurs américains du Kentucky ont cherché à améliorer une graminée, donc une herbe, pour améliorer les pâtures de l'Ouest américain. Mmh. Et ils ont isolé une fétuque dans le Kentucky en 1931, ils l'ont appelé Kentucky 31, puis ils lui ont fait subir une sélection, et en 1943, ils commencent à commercialiser des graines, parce que c'était une plante qui poussait remarquablement bien. On vend ces graines, et elles envahissent effectivement les pelouses et les prairies où on les sème, et là, on s'aperçoit que quand les vaches broutent ça, elles perdent leur queue, elles perdent leurs sabots. Elles ont des comportements bizarres. Elles cherchent l'eau dans la journée et elles se lèvent pour manger la nuit. Oui. Bon. Elles font beaucoup moins de lait. Il y a des avortements lors de la gestation. Enfin, c'est une catastrophe au niveau qualité. Ce qu'on découvre, en fait, c'est que cette plante contient un champignon qu'on n'avait pas vu, que ce champignon fait plein de toxines, notamment des toxines proches du LSD et qui expliquent les comportements bizarres des vaches. Et que cette plante est toxique. Et c'est pour ça qu'elle pousse bien. C'est parce que, autant que possible, tous les agresseurs habituels des plantes les évitent. Et alors, malheureusement, maintenant, c'est devenu une vraie peste végétale. Et ce champignon, on l'avait pas vu parce que, il est à l'intérieur des tissus et puis il colonise simplement les graines pour passer à la génération suivante. Et sans le vouloir, on avait sélectionné, en fait, les plantes qui avaient les champignons les plus toxiques et qui étaient donc le moins mangés par les insectes et le moins attaqué par les champignons.
Quel est l'apport exact alors de ce champignon sur cette plante, la Kentucky 31 ? Qu'est-ce qu'il lui permet de faire ou de...
Eh bien, en fait, il contient des toxines qu'on appelle les alcaloïdes, qui ont, il y en a énormément, c'est des vraies bombes chimiques.
Donc c'est une défense contre le monde extérieur.
Et c'est une défense aussi bien contre des agresseurs comme des champignons que contre des herbivores comme les vaches ou des petits insectes qui s'en trouvent intoxiqués et qui l'évitent au maximum. Mais quand il n'y a plus que ça dans la prairie, bien, ils sont obligés de se mettre à table.
Et on l'a éradiqué cette plante ou pas aujourd'hui ?
Eh ben, non seulement on ne l'a pas éradiquée parce qu'elle est invasive maintenant, elle se propage toute seule loin de là où on l'a semée initialement, mais en plus vous pouvez taper Kentucky 31 sur internet, comme elle pousse très bien, on en vend encore pour les jardins et les golfs. D'où elle commence son travail d'invasion à d'autres endroits.
C'est ça.
Assez bizarrement, cette erreur terrible d'aménagement qui repose sur une négligence de la composante microbienne
c'est
du végétal,
exactement,
elle n'est toujours pas éradiquée et ni réellement en voie de l'être.
Kentucky 31, c'est donc son nom, et vous racontez son histoire justement dans votre ouvrage. Les champignons, ils peuvent servir à beaucoup de choses pour les plantes, à affronter l'environnement justement, comme par exemple les températures très chaudes, le stress thermique par exemple. Les champignons, ils ont vraiment un rôle très particulier.
Alors, chez certaines plantes, oui. Effectivement, il y a cette plante, ce dicantélium, qui pousse, qui est encore une plante de la famille des graminées, comme Kentucky 31. C'est cette petite herbe qui pousse à Yellowstone, où, de tout voir, il y a des remontées d'air chaud et elle subit des atteintes jusqu'à 65 degrés. Au niveau des racines notamment. Et quand on la traite avec un fongicide, donc une molécule qui détruit les champignons, on s'aperçoit qu'elle ne supporte pas des températures de plus de 45 degrés. Et c'est la présence d'un petit champignon qui s'appelle un curvularia, qui colonise les tissus et qui assure, on ne sait pas trop comment, qui assure la résistance à la température. Et lui-même d'ailleurs, ce champignon ne supporte pas les températures supérieures à 45 degrés, mais les deux ensemble,
ça fonctionne.
Ils arrivent à pousser dans ces sols hyper chauds des zones volcaniques de Yellowstone. Et chose amusante, l'histoire est quand même assez emboîtée en termes d'entraide, ce champignon pourrait être efficace en termes de prévention des stress thermiques. Il doit être infecté par un virus qui vit dans le champignon.
Ah oui, donc c'est vraiment les poupées gigognes.
Oui,
c'est ça. Tout le monde a son petit intrus, au fond. Voilà. Mais pour le bien-être global.
Eh bien, pour le coup, tout le monde profite. Voilà, un bon virus pour le champignon.
C'est
et
ça.
Un bon champignon pour la
chacun
plante.
Le sien, effectivement. L'odeur florale aussi, Marc-André Sellos, on la doit aux microbes ?
Alors, en réalité, je pense qu'on pourrait prendre à peu près tous les caractères de la plante et voir qu'il y a une composante, pas tout, mais une composante microbienne. Le sureau. Bon, c'est une plante qui a des fleurs qui sentent très bon. On en fait des sirops. Alors là, ça coûte rien. C'est un truc que je vous recommande d'aller voir sur internet comment faire du sirop, de fleurs de sureau. Eh bien, une expérience a consisté à stériliser les fleurs de sureau par des sprays et des traitements qui ont éliminé toutes les bactéries. Eh bien, on s'est aperçu que l'odeur était complètement différente. Par exemple, les carotènes qui font partie du bouquet floral sont en quantité trois fois moindre. Et donc, il y a bien une odeur qui sort, mais l'odeur normale d'une fleur de sureau, c'est en partie dû à la présence et la modification par les microbes de ce que fait une fleur toute seule. Et donc, une fleur n'est jamais seule. Pour être une fleur normale, il y a une contribution de sa population microbienne.
Les arbres, chers à Francis Allais, justement, eux aussi doivent beaucoup aux microbes, dans tout un tas de mécanismes d'ailleurs, qui leur sont propres, autant au niveau de la croissance que de la protection, là aussi.
Ah oui, alors c'est une chose méconnue, que la forme d'un arbre, c'est une sculpture microbienne. En effet, les branches du bas finissent par mourir, ou en tout cas végéter, parce qu'elles sont protégées par les branches du haut de la lumière. Mais elles sont là, ces branches du bas. Elles devraient persister. Or, en fait, quand on regarde un tronc d'arbre en forêt, il est lisse.
C'est vrai.
Il y a des petits champignons dont la niche écologique est de manger ces branches affaiblies ou mortes. Ils les mangent et puis quand ils arrivent au tronc, ils ne sont pas compétitifs pour se développer dans le tronc, ils s'arrêtent. Et donc, la branche a disparu, elle est tombée en miettes, elle a été dévorée par ces champignons et ensuite, l'écorce peut cicatriser et vous obtenez les troncs lisses dont on a l'habitude. La forme d'un arbre qu'on a dessiné depuis l'enfance avec un tronc et un houppier au sommet, c'est une sculpture microbienne.
Donc c'est un élagage naturel qu'on doit aux microbes, au fond.
Exactement, il y a quelques essences qui sont introduites par exemple d'Amérique, je pense au Douglas ou des épicéas qui sont plantés en plaine et qui ont été introduits sans leurs agents d'élagage et quand vous vous baladez dans ces forêts-là, eh bien, si les forestiers ne sont pas passés pour le faire, il y a des branches basses mortes partout, c'est impénétrable, ça ne ressemble pas à un bel arbre tel qu'on l'a dans l'œil.
Marc-André Sellos, vous racontez très bien les histoires et on en veut d'autres dans un instant avec vous. Et il y a des messages sur franceinter.fr qui vous attendent. On se retrouve après mon frère, Maxime le Forestier, sur France Inter. Et vous êtes dans La Tête au Carré. Bon après-midi.
Toi, le frère que je n'ai jamais eu. Sais-tu si tu avais vécu ce que nous aurions fait ensemble? Un an après moi, tu serais né. Alors on se serait plus quitté comme deux amis qui se ressemblent. On aurait appris l'argot par cœur. J'aurais été ton professeur à mon école buissonnière. Sûr qu'un jour on se serait battu, pour peu qu'alors on ait connu ensemble la même première. Mais tu n'es pas là, à qui la faute? Pas à mon père, pas à ma mère. Tu aurais pu chanter cela. Jamais eu, si tu savais ce que j'ai bu de mes chagrins en solitaire. Si tu ne m'avais pas fait faux bond, tu aurais fini mes chansons, je t'aurais appris à en faire. Si la vie s'était comportée mieux, elle aurait divisé en deux les paires de gants, les paires de claques. Elle aurait sûrement partagé les mots d'amour et les pavés, les filles et les coups de la traque. Mais tu n'es pas là, à qui la faute? Pas à mon père, pas à ma mère. Tu aurais pu chanter cela. Toi le frère que je n'aurais jamais, je suis moins seul de t'avoir fait pour un instant. T'es dérangé, tu me pardonnes. Ici, quand tout vous abandonne, on se fabrique une famille.
Nous ne sommes jamais seuls, entourés par nos amis, les microbes. On peut le dire comme ça aussi, hein, Marc-André Sellos. Il faut réhabiliter aussi l'image du microbe, non?
C'est un de mes objectifs, hein, et de prendre le mot microbe qui est très salement connoté pour le coup, et de lui redonner son, de lui redorer son blason.
Ah, c'est la vie au fond, la vie microbienne, hein, tout simplement, non?
Mais c'est
la
monde,
vie, elle n'est pas possible sans microbes.
Mais c'est le monde. Rien n'est bon, rien n'est mauvais. Tout a deux faces. Les microbes sont comme cette déesse romaine, enfin ce dieu romain Janus, qui a deux visages. L'un qui sourit et l'autre qui pleure. Et les microbes sont effectivement capables du pire comme du meilleur, comme le couteau, comme les OGM, comme les vaccins.
Alors vous êtes dans la même maison d'édition Actes Sud que Julia Anders, hein, qui a sorti son livre sur l'intestin et qui a joué évidemment un rôle absolument incroyable de popularisation aussi, hein, de ce concept.
C'est un travail
de microbiologie. Parce qu'il fait qu'aujourd'hui, quand vous faites des conférences, on ne vous parle plus que de l'homme. Hein.
Et du tube digestif de l'homme.
Alors c'est ça.
Alors que nous sommes effectivement superbement peuplés en termes de diversité de surface et de. Pensez par exemple que je vous donne un exemple. Sur notre peau, nous avons des pathogènes comme des staphylocoques dorés. Plus de 10% d'entre nous portent des staphylocoques dorés, mais sans développer de maladie. Et on sait aujourd'hui qu'il y a un autre staphylocoque qui peuple les muqueuses du nez ou la peau, le staphylocoque dit de Lyon, qui produit. Un antibiotique, la lubdunine, qui stoppe en fait ce staphylocoque doré. Et c'est là qu'on en revient à la saleté propre. Il y a une façon d'être colonisé qui n'est pas grave parce qu'il y a des antagonismes qui s'établissent et qui, même si des méchants microbes sont présents, bloquent les conséquences néfastes.
Ouais. Alors il y a vraiment les deux faces, hein. Effectivement, le bon microbe, et puis quand même, des microbes qui ont fait des dégâts colossaux et qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Vous racontez quand même dans le livre, le plus grand conflit biologique du monde, c'est une histoire absolument incroyable qui a décimé des millions de personnes et qui a fait s'effondrer les populations.
Une bonne centaine de millions, oui. C'est tout simplement quand les Européens sont arrivés en Amérique. Ils ont tué beaucoup plus par leurs microbes que par leurs lances ou leurs coups de fusil. En effet, nous avions en Europe et en Asie domestiqué pas mal d'animaux sur lesquels nous avons attrapé des maladies comme la grippe, la rougeole. Ouais. Bon. On est arrivé en Amérique où il y avait eu peu de domestication animale et où les Amérindiens avaient attrapé la syphilis sur le lama. Mmh. Là, je mets quelques points de suspension pour le franchissement de la barrière d'espèce. Mais ils avaient que ça. Hein. Et donc, quand on est arrivé avec toutes ces maladies, ils ont attrapé la grippe, la rougeole, les oreillons. Nous, on a attrapé la syphilis qui est revenue en Europe à ce moment-là. Mais ça a décimé colossalement les populations qui ont brutalement été... qui ont vécu en un flash, cette sélection qui s'était faite progressivement en Europe et en Asie. Et on pense qu'il y a 90 millions de personnes qui sont décédées en Amérique du Sud, 50 millions en Amérique centrale, des quelques 10 millions qui sont en Amérique du Nord quand les Européens arrivent en 1870, il reste 375 000 personnes.
Mais incroyable, vous dites l'Amérique du Nord est passée d'une population de 7 millions d'individus à 375 000 habitants en 1870.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme ça que ces sociétés se sont écroulées et ont été aisément la proie des Européens. On a retrouvé le long du Mississippi des espèces de buttes de terre qui étaient un peu bizarres. Ouais. On a réalisé que tardivement que c'était en fait des pyramides en terre rituelles de civilisation que les Européens n'ont pratiquement pas vues. Enfin, il y a une description par des Espagnols qui étaient passés par là. Quand les Espagnols descendent de l'Amazone, ils décrivent la première descente de l'Amazone, ils décrivent des cités aussi peuplées que les villes d'Europe. Il n'en est rien resté, tout ça s'est écroulé, avant même qu'on ait pu le documenter d'ailleurs.
Mais c'est intéressant quand même, toutes ces histoires, outre évidemment l'aspect dramatique, parce que ça nous montre bien que c'est la diversité aussi, et le métissage, le mélange qui donne la force. Hein. Et quand on est renfermé sur soi-même, c'est là qu'on devient beaucoup plus fragile, non ?
Ça c'est une leçon philosophique à laquelle je souscris complètement. Mais on retrouve cette histoire de Janus aussi, hein, parce que finalement ces microbes, qui sont des agents de maladie, ont été finalement les alliés objectifs des Européens dans la conquête des Amériques. Alors on peut ne pas aimer cette histoire-là, mais le fait est que si aujourd'hui Rio de Janeiro ou San Francisco sont des villes européennes, culturellement.
Il y a de la biologie derrière, il y a du microbe derrière.
Toutes les auxiliaires.
Effectivement. Marc-André Sellos, Xavier nous dit, combien de bactéries sur une barre dans le métro sont-elles saines ou pas ? Alors est-ce qu'il faut avoir peur de poser la main sur une barre de métro ?
Oui, il vaut mieux le faire que de chuter à l'accélération. Non, mais alors, un dénombrement exact, je ne sais pas, parce que ça va dépendre quelles mains l'ont touché, si elles ont été raclées par une étoffe ou non avant, mais je parierais, moi, pour 100 à 10 000 espèces, hein, à la louche, comme ça, pour...
Vous allez effrayer tout le monde.
Oui, mais il va falloir se laver les mains avant de manger. Mais en attendant, leur présence sur la main ne représente rien de très grave. Hein, et c'est ça, l'idée, c'est de ne pas avoir peur de leur présence, juste de l'éviter au bon moment. Quand par exemple, on nettoie une plaie, quand on met les doigts dans la bouche, voilà.
Ludovic nous dit, comme nous, je suppose que les microbes sont touchés par la pollution. Est-ce qu'à cause de cette pollution, la diversité de la faune microbienne qui nous habite pourrait se voir réduite ?
Oui, mais d'une certaine façon, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, l'abus de détergents bactéricides ou de savons bactéricides, c'est une pollution, hein, de ce point de vue-là, qui affecte effectivement les microbes de notre peau, voire de notre tube digestif. J'aimerais passer sur la plante, là, pour le coup.
Oui.
On parle beaucoup du glyphosate. Le glyphosate, visiblement, et ça avait été complètement sous-estimé, bousille, clairement, hein, abîme certains champignons du sol qui sont des auxiliaires de la nutrition des plantes. C'est documenté surtout dans le domaine agricole qu'un certain nombre de pollutions modifient les microbes du sol et notamment les populations de microbes qui sont favorables à la nutrition et à la défense des plantes.
Oui, c'est pas rien, évidemment.
Ça a des conséquences effectivement importantes. C'est que comme ces microbes ne sont plus là, vous devez utiliser plus de fertilisants puisque la plante se nourrit moins bien puisqu'elle est toute seule et qu'elle ne devrait jamais être seule. D'autre part, comme ce sont des agents qui défendent les plantes sont plus sujettes aux maladies, donc vous devez mettre plus de traitements fongicides, pesticides, et vous rentrez dans une dépendance à des intrants qui ont des effets secondaires. Et donc, l'enjeu aujourd'hui pour l'agriculture, mais c'est un enjeu compliqué parce qu'il faut retrouver des variétés et des savoir-faire différents, hein, mais c'est de se reposer plus sur la diversité microbienne du sol et de retrouver ce que les plantes font depuis 400 millions d'années, où elles sont apparues sur Terre, c'est d'utiliser les microbes du sol pour se nourrir, pour se défendre. Et ça, finalement, notre agriculture l'a complètement nié. Elle a du coup évacué, évidemment, tous les pathogènes, ça c'est sûr. Mais à coup d'engrais et de pesticides, nous avons complètement changé le mode de fonctionnement des plantes. Ça a nourri l'humanité. Je veux dire, il n'y a plus de famine en Europe. Donc ça a une vertu. Mais aujourd'hui, quand on voit l'impact qu'a l'agriculture conventionnelle sur l'environnement, on se dit il faut vraiment réexplorer la piste microbienne.
La phagothérapie de Mandagnès, ces virus naturels non pathogènes qui combattent les bactéries sans effet secondaire, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une solution à la résistance aux antibiotiques, par exemple?
Deux choses. La première, c'est que effectivement, cette technique a été très utilisée notamment par les soviétiques à une époque. Hein. Il y a donc des hôpitaux en Russie où on soigne comme ça, avec donc des virus qui vont s'attaquer aux bactéries qui ne sont pas favorables. Ça marche bien, mais c'est un médicament, hein, donc ça peut aussi marcher mal. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut y avoir des effets secondaires et on peut aussi détruire éventuellement de, entre guillemets, bonnes bactéries. Il ne faut pas être naïf. Là encore, c'est un Janus. Et le deuxième remarque, c'est que les risques de résistance à ces virus existent aussi. La vraie stratégie, à mon avis, ce n'est pas de trouver une nouvelle méthode de lutte, c'est d'arriver à combiner plusieurs méthodes de lutte pour faire en sorte que la parade à toutes les luttes, à toutes les méthodes ne soit pas possible. Je vais vous faire remarquer que c'est ce qu'on utilise contre le sida. On a une trithérapie, parce qu'en utilisant trois drogues, la probabilité qu'un virus trouve la parade aux trois attaques est beaucoup plus faible. Et je crois que la solution d'avenir est plutôt dans des thérapies multiples, de façon à éviter que les bactéries trouvent une parade.
Là aussi de la diversité, finalement. Hein.
Bah ouais.
C'est plus efficace. Y a-t-il une différence de microbiote entre le bébé né par césarienne et celui né naturellement? On demande Virginie, vous avez 30 secondes pour nous répondre,
Marc-André Sébastien. Oui, né par césarienne, il va être colonisé par des bactéries de peau, parce qu'il a un contact avec la peau. Né par voie basse, il est contaminé par les bactéries du vagin maternel, éventuellement quelques bactéries fécales, et ça, c'est bien meilleur pour le développement. Ça corrèle avec moins d'asthme, moins de probabilité d'autisme. Les naissances par voie basse, ça reste quand même ce que la nature a fait de mieux pour l'homme.
Merci docteur Sélos, c'est comme ça qu'on va terminer cette émission. On a notre vrai docteur avec nous, Dupaigne, dans un instant. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Marc-André Sélos, ça s'appelle « Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et même les civilisations » comme on l'a vu avec vous. Et c'est aux éditions Actes Sud. On était ravis de vous accueillir pour une seconde fois. Merci, à bientôt.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupaigne.
Attention, je vais piquer.
Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Alors vous nous aviez promis la semaine dernière des révélations pour l'épisode 3 de Game of Levothyrox.
Eh ben oui Mathieu, et c'est du lourd. Alors vous savez, les journalistes et les scientifiques, on partage une règle de base, il faut toujours aller à la source de l'information. Et en l'occurrence, l'étude de bioéquivalence qui était censée démontrer que le nouveau Levothyrox apporte aux patients la même quantité d'hormones thyroïdiennes que l'ancien, eh bien ça n'a pas été simple parce qu'elle est bien cachée. Mais je l'ai trouvée. Il y a 3 semaines, je disposais juste du résumé. Et ça décrivait une différence d'absorption de 0,7% entre les deux produits, avec un intervalle de confiance allant de moins 4 à plus 3%. Et tout le monde a cru, à commencer par moi, que ça signifiait que chez 95% des patients, eh bien, la différence d'effet entre l'ancien et le Levothyrox ne dépasserait pas quelques pourcents.
Ouais, et alors, ça n'est pas le cas?
Eh bien, pas du tout. Parce que 0,7%, c'est la moyenne des différences. Et l'intervalle de confiance, c'est comme pour un sondage. C'est pour donner une idée de la marge d'erreur autour de ce chiffre. Alors oui, en moyenne, l'absorption est identique. Mais la moyenne, c'est trompeur. Imaginons un lycée dans lequel 2 classes et 12 de moyenne en mathématiques. Bah, dans l'une, la moitié des élèves à 11 et l'autre à 13, ça fait 12. Et dans l'autre, une moitié à 6 et l'autre à 18, ça fait 12 encore. La moyenne est la même. Mais bien sûr, les classes, elles sont pas comparables. Il nous manque en fait l'étalement autour de la moyenne. Eh bien, c'est pareil pour le Levothyrox. On aimerait bien savoir comment chaque sujet réagit à la substitution pendant cette étude.
Et alors, Dominique?
Eh ben, on le saura jamais. Ah, on le saura jamais parce que cette donnée n'est pas présentée dans le résumé publié. Tout ce qu'on sait, c'est que d'un sujet à l'autre, avec la même dose de médicaments, le taux sanguin peut s'éloigner de plus de 20% de la moyenne chez un tiers des sujets.
20%, mais c'est beaucoup ça quand même.
Et oui, et même parfois plus. Mais on ne sait pas si c'est pour une personne donnée. C'est une variation par rapport à la moyenne et on ne sait pas si ça va dans le même sens. Il y a des gens qui ont deux taux élevés ou s'il y en a d'autres qui ont en sens contraire, c'est-à-dire qui absorbent beaucoup l'un des deux médicaments et pas l'autre. Et quand on sait que pour équilibrer ces traitements, on progresse par palier de 10%, ça peut très bien expliquer pourquoi tant de patients vivent très mal la substitution. Alors, je veux bien que l'effet, la psychologie joue un rôle, bien sûr, mais il y a probablement un réel support biologique aux troubles de ces dizaines de milliers de patients. Et comme c'est un peu compliqué à résumer, je renvoie nos auditeurs à l'article détaillé que j'ai publié sur mon blog atout.org.
C'est dingue quand même cette histoire, non?
Ben, en fait, les études réalisées actuellement pour ce médicament, ou pour la majorité des génériques, ne permettent pas de ne pas prouver un effet identique chez tous les patients. Nous sommes tous différents. Pour la majorité d'entre nous, tout se passe bien. Mais pour d'autres, l'impact d'un changement de formule peut être mal ressenti, c'est ça la diversité, et c'est particulièrement vrai pour la lévothyroxine. L'ANSM, l'agence, a été très maladroite dans cette affaire. Vous connaissez l'effet stressant de Mathieu?
Un rapport avec Barbara?
Exactement.
C'est
en fait,
vrai?
Ouais.
Ah bon?
Elle s'était démenée pour faire disparaître une photo qui la gênait, et du coup elle l'a rendue célèbre et ça abusait partout. Et bien maintenant, il y aura un effet lévothyrox. On sait que le meilleur moyen donc pour créer la panique, c'est de cacher les infos de peur d'inquiéter les gens. Il va falloir maintenant rééquilibrer le traitement de nombreux patients ou réimporter transitoirement l'ancien produit dans un climat de tension extrême, on l'a vu encore aujourd'hui. J'espère que la leçon portera.
Eh bien, en tout cas, on peut retrouver cette chronique sur franceinter.fr. Merci beaucoup, monsieur Dupagne. À bientôt. Et c'est terminé pour cette tête au carré. Merci à Alice Berger, Ludovic Asselot qui était à la technique. Demain, nous parlerons des 150 ans de l'hôpital Sainte-Anne, d'un roman sur le réchauffement climatique et du sommeil des animaux.